Bonsoir, merci d'être là. Et ça me fait très plaisir de revenir à Montpellier. Où je reviens moins maintenant, mais justement, voilà, je vais renouer. Et je voudrais parler pas trop longtemps pour qu'on puisse discuter, essayer de synthétiser un petit peu cette... Ça va, vous entendez ? Synthétiser un peu ce travail, ce bouquin, qui est donc, comme Paul Pandolfi vient de le dire, un recueil de textes que j'ai élaboré sur une dizaine d'années, mais qui a vu le jour seulement en 2006, et grâce aux éditions Anacharsis de Toulouse et à leur responsable, Franz Olivier, qui a joué un grand rôle dans la... Je sais pas quoi, pour me confirmer dans mon projet, hein, parce que c'est un projet hyper critique de l'anthropologie et à Paris, où le bastion dur de l'anthropologie classique est installé, j'avais un peu de mal à me faire entendre dans les cours, etc. Mais au niveau de l'édition, ça n'avait pas été très bien reçu, donc. Passé par la province pour revenir sur Paris, et donc grâce à Toulouse, j'ai pu publier ce bouquin. Alors, pour aller vite, donc c'est vrai que mon terrain d'enquête de prédilection, ça a été la Nouvelle-Calédonie, et il est vraisemblable que je n'aurais pas pu écrire ce bouquin si j'avais pas eu cette expérience du monde kanak en Nouvelle-Calédonie et de la révolte kanak de 1984 à 89. Enfin, c'est pas probable, c'est absolument certain. Voilà. Et jusqu'à cette période, j'ai commencé en Nouvelle-Calédonie en 1973. Et de 73, disons, à 83, je m'inscrivais dans des canons assez conventionnels de l'anthropologie, même si je m'intéressais un petit peu plus que d'autres aux récits historiques et mythiques, mais dans un contexte historique. J'avais une anthropologie qui était déjà un peu historique depuis longtemps. Toutefois, les choses se sont crispées et en même temps élucidées à travers la révolte des Kanaks de 1984, tout simplement parce que je me suis trouvé avec des gens que je connaissais déjà depuis un certain temps, qui passaient de leur stratégie villageoise, de leur politique de chefferie, de leurs histoires de clans dont je m'étais fait un peu une spécialité ou qui m'intéressaient particulièrement et que j'étudiais avec un linguiste, Jean-Claude Rivière, en travaillant à partir d'une de leurs 28 langues. Et donc, je continue toujours à m'intéresser à ça, et ça continue toujours à exister, bien entendu, mais ils ont changé de braquet, on peut dire un peu consciemment, c'est-à-dire ils sont passés de cette logique régionale, villageoise, à quelque chose de plus important, c'est-à-dire en montant sur la scène internationale, en revendiquant l'indépendance, en négociant un avenir, et en essayant de retrouver non seulement les espaces qu'ils avaient perdus, mais des espaces sur lesquels ils pourraient exercer un certain pouvoir. Et donc, l'intérêt, pour moi, ça a été, l'étonnement d'abord, et le grand intérêt, ça a été d'essayer de comprendre la part de leur héritage culturel et social ancien dans son articulation avec la mise en place d'un discours politique prenant pied sur la scène nationale française, bien entendu, mais aussi sur la scène internationale. Alors, vous me direz, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, il y en a quelques-uns ici, qu'évidemment, j'aurais pu, si j'avais eu une formation plus interdisciplinaire, si j'avais eu une attention moins culturaliste aux choses à l'époque, m'intéresser davantage à la genèse des partis politiques qui existent quand même en Nouvelle-Calédonie depuis le début des années 1950. J'aurais pu m'intéresser à la carrière des leaders, ce que, par exemple, Eric Soriano et d'autres ont fait. Mais j'avais pas cette formation. J'avais une formation d'ethnologie au sens classique du terme, c'est-à-dire, en gros, comprendre des gens à partir de déterminations qui leur seraient entièrement propres, voilà, qui leur seraient qui serait un héritage mélanésien, lui-même un héritage austronésien, et qui serait comme un monde clos dont je devais trouver les clés, l'organisation interne, avec cette idée, ça m'avait été dit par mes enseignants, pas par Jean Guillard, je dois le reconnaître, même si c'est un personnage particulier dans la discipline, mais même par André-Georges Vaudricourt, qui était pourtant un communiste engagé qui est resté au Parti communiste jusqu'à la fin de ses jours en 96, mais Vaudricourt me disait, bon voilà, vous allez en Nouvelle-Calédonie, bon, ils ont des langues extraordinaires, c'est des gens à part, quoi. C'est des gens à part, et vous allez étudier ce qu'il appelait le typique et l'ancien. Voilà, donc si vous voulez, moi, en plus travaillant sur une langue, des langues qui ne sont pas faciles, l'effet linguistique amplifie ça. Vous avez l'impression d'entrer dans quelque chose qui est tout à fait spécial, dans des représentations, des catégorisations, des classifications, que ce soit les ignames, les poissons, les catégories sociales, les chefs, pas les chefs, etc. Et donc, ça crée une sorte d'illusion culturaliste ou essentialiste, hein, dans laquelle je me trouvais et qui me préparait mal à comprendre que ces gens qui, effectivement, parlaient ou parlent encore leur langue, qui ont des récits sur l'origine de leur groupe, sur l'origine de leur chefferie, obéissent à des règles de parenté, j'allais dire extrêmement strictes. Dans certains cas, extrêmement strictes, dans d'autres, elles le sont moins, mais malgré tout, l'univers de la parenté est un repère très très important de la vie quotidienne des Kanaks d'aujourd'hui et d'hier, bien entendu. Et donc, j'étais dans une sorte de travail de systématisation de ces différents ordres, parenté, politique, économique, comme on nous apprenait à le faire, comme on voit des monographies telles que je les enseignais à l'époque à Paris 5, etc. Et comment comprendre que ces mêmes personnes, parce que c'était les mêmes, physiquement les mêmes, hein, c'est pas, est en même temps un discours sur l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie. Donc mes interlocuteurs étaient membres de partis politiques. Or tout ça, je n'y prêtais pas attention, je notais pas quand ils me racontaient ça. C'était dans le dîner, c'était pas, c'était en plus, quoi, si vous voulez. Moi, ce que je notais, c'était l'histoire des chefferies, l'histoire des clans, les totems, les mains, enfin. Et puis je faisais un gros effort de langue, bon, que je regrette pas du tout, hein, qui reste quelque chose d'important, mais j'avais tendance à les enfermer dans cet univers un peu ahistorique, bon. Même si je voyais bien qu'il y avait une dynamique historique, mais je la voyais plutôt locale. Voilà, comment le chef est arrivé, qui l'a reçu, comment il a été installé, etc. Et moins dans une dynamique, disons, englobant l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie et encore moins l'histoire coloniale de la France. Bon. Alors, là, les événements de 1984, ben, j'ai compris en 1983 que ça allait barder, mais j'ai rien dit. Justement, c'était le premier acte politique, ne rien dire, voilà, pour que les autres soient surpris, hein. Donc j'ai menti, j'ai commencé à faire de la politique, quoi. J'ai menti à Libération, je me souviens, j'ai été interviewé, je suis revenu dans la nuit dans le journal et j'ai fait enlever la partie où je savais que ça allait péter, quoi, en me disant c'est une erreur, il faut qu'il y ait un effet de surprise total, et là je l'ai trahi si j'annonce ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire. Alors ceci dit, ils l'avaient dit au grand jour aussi, hein, mais personne ne voulait l'entendre. Les renseignements généraux avaient fait leur petit rapport et tout ça, et personne ne voulait les croire. Et même des délégations de politique avaient demandé à des gens de l'ex-Orstom de faire des rapports qui avaient dit « Kanaks, ils cultivent leurs ignames, ils se prennent pour des lézards, etc. C'est pas possible, il peut rien arriver. » Et voilà. Et donc le 18 novembre 84, ça a explosé. Alors, quel est le lien avec ce bouquin ? Je ne vais pas vous raconter, c'est une conférence sur la Nouvelle-Calédonie, mais évidemment, je me suis dit petit à petit, bon, ça s'est élaboré progressivement, mais notamment dans ces cinq années de feu, de 84 à 89, autour organisant ou participant à la solidarité avec les Kanaks, étant amené à passer du discours universitaire, académique, que j'avais dans mes TD, dans mes cours, à des meetings de 500, 600, 1000 personnes, avec des gens de toutes sortes de partis politiques, principalement de l'extrême gauche. Vous savez, la gauche traditionnelle, c'est pas beaucoup engagé là-dessus. Et donc c'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi. Je n'étais pas un ancien militant, donc et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si vous voulez, quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire que ce que je racontais sur le monde kanak était complètement déconnecté de ce qui était en train de se passer. Ça ne me donnait pas des clés. Dire qu'ils ont 80 types d'ignam, qu'ils ont un système de parenté patrilinéaire, que c'est le dernier arrivant qu'ils installent comme chef, ça faisait pas vraiment sens au moment où ils faisaient des barrages, où ils revendiquaient l'indépendance, même si à certains moments il y avait des croisements, hein, puisqu'il y a eu une constitution de Kanaki en 1985, où justement les Kanaks, d'une façon Origina, faut bien le dire, et essayer de tout de suite autour de Chimbaou principalement, mais à la fois de valoriser leur héritage culturel et en même temps de vouloir mettre la main sur les leviers les plus modernes du pouvoir politique et économique. Et là, il y avait quelque chose de très intéressant. Je parlais à l'instant là, avec Karine Favier autour de Chimbaou. Hein, je pense que Chimbaou a joué un grand rôle de maître, d'une certaine façon, mais même pour l'ethnologie que je faisais, si vous voulez. Hein. Puisqu'il faisait une sorte de synthèse entre l'héritage du passé et la préparation de l'avenir, et là, quelque chose de tout à fait passionnant. Alors, cette aventure m'a amené à approfondir mes connaissances en histoire coloniale française, dans le Pacifique et ailleurs, à m'intéresser davantage à l'ensemble des populations qui étaient arrivées en Nouvelle-Calédonie, pas jusqu'à faire des enquêtes auprès d'eux, mais à être plus attentif à ces différents positionnements qui jalonnent l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et en même temps à m'interroger de plus en plus sur ce qu'on m'avait enseigné. Et sur ce que j'enseignais encore, parce que j'avais encore, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'idée de structure, de l'idée de système, de l'idée donc de structure, de culture, de système, de structure mentale, voire de mentalité, bien que Lévi-Strauss emploie d'autres termes, il parle quand même d'enceinte mentale, etc. C'est-à-dire tout cet appareil stabilisé de référence qui permet d'identifier une culture ou une société comme constituant une culture spécifique. Voilà. Donc je me suis dit, mais dans le fond, est-ce que on n'a pas réifié, simplifié, rigidifié des dispositifs qui existent, mais qui sont beaucoup plus souples et en tous les cas qui permettent aux acteurs d'avoir d'autres choix que des choix matrimoniaux codés, de respecter leur chef et de planter des ignames correspondant à leur statut. Voilà. Ce mouvement de critique de l'anthropologie, tel que je l'ai vécu, il s'est fortifié finalement de travaux d'autres auteurs qui n'étaient pas des anthropologues. Bourdieu, qui a joué un rôle essentiel dans cette affaire, pour moi, qu'on étudiait, qu'on enseignait déjà à partir de 75, surtout d'actes de la recherche en sciences sociales, toute cette influence de Bourdieu, mais qui, dans différents textes, faisait une critique du juridisme des anthropologues, faisait une critique de la systématisation dure de l'anthropologie dans des articles techniques sur la parenté, sur les rituels, etc., et qui en appelait à une réflexion plus large sur la construction des rapports de domination dans une perspective historique. Également, les historiens, plus largement, qui remettaient au cœur de leur démarche l'événement. Et là, j'ai été progressivement intéressé directement par la science politique, c'est-à-dire, je me disais dans le fond, quand on veut comprendre l'Afrique, si je vais lire Marcel Griaul, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire les ouvrages classiques ou de l'Afrique traditionnelle, je comprends rien à ce qui se passe au Mali. Hein. Alors que si je vais, je sais pas, chez Cartala, acheter un bouquin de quelqu'un de Sciences Po sur la politique au Mali, j'ai l'impression de comprendre quelque chose. Je vois les leaders, je vois des choses qui se passent, si vous voulez. Or, le côté hors du temps de l'anthropologie m'est apparu de plus en plus fort, alors que la science politique, qui a peut-être aussi ses courants, etc., je ne rentre pas là-dedans, mais me paraissait plus efficace, voilà, pour rendre compte des choses. Alors, notamment, par exemple, dans le Pacifique, il n'y en avait pas beaucoup, mais en Asie, hein, surtout ce qui concernait le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, etc. Donc je me suis lancé dans toutes ces lectures qui étaient liées aussi à des contacts avec des gens plus engagés politiquement, avec des chercheurs plus impliqués même dans, je sais pas, on parlait des révoltes au Mexique, etc., enfin, qui proposaient une lecture beaucoup moins fixe, beaucoup moins stabilisée. Et à mon étonnement, je me suis aperçu que l'anthropologie marxiste, qui était très représentée dans l'université où je me trouvais, à Paris 5, autour de Jean Bazin, on allait au séminaire de Claude Meillassou, Godelier n'était pas loin, même si tous ces gens étaient... il y avait Emmanuel Terray et tout ça. Or, je me suis aperçu d'un seul coup que le structuralisme marxiste... Enfin, qu'il y avait un structuralisme marxiste qui, lui aussi, ne parlait pas beaucoup d'histoire. Il parlait de transition, vous voyez, entre un mode de production et un autre. Alors, à propos des Kanaks, ça devenait compliqué. Est-ce qu'on était dans une transition entre un mode de production... comment on pourrait l'appeler, je sais pas, traditionnel, fondé sur des échanges non marchands, et puis on allait vers un monde de plus en plus marchand. Alors en fait, les Kanaks, ils font des marchés depuis le premier jour, enfin depuis que Cook est arrivé en 1774, et même ils ont des transactions, les choses avaient une valeur, on les échangeait pas n'importe comment. Enfin, l'idée qu'il y ait une coupure, par exemple, entre une idéologie du don et de l'échange non marchand, et puis une idéologie marchande, horrible, américaine, ou je ne sais pas quoi, individualiste, etc., parce que c'était pris un petit peu là-dedans, dans toute une nostalgie, vous voyez les textes autour du MOS, là, la revue Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, etc. Et donc tout ça, d'un seul coup, je ne dis pas que ça s'effondrait, mais ça commençait à m'interroger. Je disais, mais dans le fond, il y a eu le mythe, il y a le don... même sur le plan politique, il y avait une vision très fixiste des systèmes politiques. Il y avait les systèmes à big men, à great men, les chefferies, les bandes, tout ça était classé. Alors c'était formidable pour enseigner. Hein. Cette semaine, nous étudierons les bandes, la semaine prochaine, on fera les chefferies, etc. Mais en fait, la vie politique réelle de ces personnes qui avaient peut-être vécu sur ces modes anciens d'organisation politique, mais qui toutes, que ce soit les Esquimaux, les Inuits maintenant, les Lapons, en Afrique, évidemment, tous ces gens étaient impliqués dans des dispositifs beaucoup plus compliqués. Et d'ailleurs, là, l'influence de Balandier, faut vraiment le citer, a été aussi grande. Il enseignait à Paris 5 avec nous. Enfin, disons, j'enseignais avec lui, quoi. Il était prof, là. J'avais eu comme prof à partir de 68. Et Balandier, son intérêt pour la situation coloniale, sa volonté de faire une sociologie actuelle de l'Afrique noire, de s'intéresser aux phénomènes urbains. Ça, ils n'ont pas réussi à me mobiliser sur l'urbain. Les Kanaks sont dans des endroits trop jolis pour que j'ai été les étudier en ville. Mais par contre, je reconnais tout à fait l'intérêt de toutes ces mouvements et l'intérêt de comprendre ce que c'est qu'un phénomène d'urbanisation, ce qui en Nouvelle-Calédonie est à part, enfin est compliqué à comprendre. Toujours est-il que je me suis de plus en plus intéressé au contexte politique, économique et historique, et dans le même moment à ce qu'on pourrait appeler aussi un retour sur ma propre enquête. Parce qu'évidemment, cet engagement politique, alors ça pouvait m'être reproché, enfin, ça a été surtout reproché par les adversaires politiques en Nouvelle-Calédonie, mais ça pouvait apparaître comme une trahison de l'ethnologie traditionnelle, ça pouvait apparaître comme une perte d'objectivité, ça pouvait apparaître comme une sorte de confusion entre l'objectif militant qui est un peu de transformer le monde et puis l'objectif scientifique qui est un peu de constater dans quel état il se trouve. Et là-dessus, j'ai été influencé par les travaux américains autour de James Clifford et de Marcus et Wagner, etc., Rabinov, qui ont été les premiers à s'intéresser, après Jeanne Favret pour la France, qui avait déjà posé le problème, à l'histoire de l'enquête elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait véritablement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu'une enquête, voilà. Quel est le rapport entre la formation du chercheur, le nombre de mois ou d'années qui passent sur le terrain, les questions qui se posent et l'évolution du monde qu'il étudie. Et donc, dans cette... j'étais amené à ce moment-là à critiquer le dispositif d'enquête lui-même. Alors, il se trouve que dans le cadre de l'enseignement, j'organisais avec Florence Weber, Stéphane Beaune, on parle plus maintenant avec les banlieues, etc., on organisait des stages, on réfléchissait énormément sur les enjeux de méthode, sur la place de l'enquêteur sur son terrain d'enquête. Bon, tout ça a fini par, si vous voulez, dynamiter un peu la vision que je pouvais avoir au début de l'anthropologie comme discipline distancée, notant de façon systématique un ensemble d'informations, puis intégrant ces informations dans un modèle, et ensuite glosant sur ce modèle en faisant encore une théorie plus abstraite. Et je me souviens, ça, il paraît que ça existe encore, mais de séminaires extrêmement abstraits, extrêmement compliqués, sur les modes de pensée amérindiens, avec la mise en série de différents mythes ou en correspondance, etc. Et alors pour les Kanaks, en plus, les Kanaks avaient été eux-mêmes victimes de ce type d'approche avec Maurice Lennart. Bon, je ne sais pas là-dessus, mais enfin, Maurice Lennart, qui est un missionnaire, un peu d'ethnologie, et qui avait inventé une sorte d'image absolue de la primitivité. Voilà. Et alors qui ne correspondait pas du tout à ce que je voyais. Je ne voyais pas du tout le rapport entre Chimbawu et le livre de Maurice Lennart d'Okamo. Et Chimbawu me disait, mais c'est pas grave, ça plaît aux Blancs. Donc, alors lui, il était très tactique, il disait, peu importe ce que les Blancs racontent sur nous, du moment qu'ils croient qu'on a des pouvoirs, qu'on est un peu spéciaux, etc., ça peut marcher. Alors il me disait, toi, tu t'intéresses à ce qu'on est vraiment, mais c'est moins porteur politiquement. Politiquement, il vaut mieux leur en mettre plein la vue en disant qu'on a une mentalité totalement à part, etc. Donc, en Nouvelle-Calédonie, il y avait ça aussi, là, une sorte de l'archétype du primitif autour de ce livre terrible qui s'appelle Dokamo, qui est réédité à tout va, cité, etc. Bon. Donc, ce point de vue s'est évidemment amplifié avec mon entrée à l'école des hautes études en 90, où là, j'étais à pied d'œuvre. Le côté interdisciplinaire est devenu effectif. J'étais vraiment avec des sociologues, des historiens, des philosophes, et puis une ethnologie en pleine explosion jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez la gamme de gens qui se réclament de l'anthropologie, c'est extrêmement vaste, on finit par se demander vraiment ce que c'est cette discipline. Et en travaillant autour de la micro-histoire avec Revel, je me suis intéressé aux historiens qui restauraient la notion d'événement, qui restauraient une sorte de logique des pratiques inscrites dans des situations singulières. Et avec Jean Bazin, donc, qui est disparu malheureusement en 2001, qui menait lui aussi une critique plus philosophique même de ces fausses constructions de l'anthropologie à partir de l'œuvre de Wittgenstein. Donc, on a été amené à devenir un peu les voyous, quoi, de l'anthropologie. Évidemment, ça se savait, puisqu'on en parlait dans les séminaires. On menait une critique très... On tirait sur tout ce qui bougeait, ou sur tout ce qui ne bougeait pas, justement. Tout ce qui ne bougeait pas, c'est-à-dire... c'est plus facile, mais c'est-à-dire sur tout ce qui avait tendance à entretenir l'idée d'une pérennité... d'une sorte d'éternité des structures et centrée sur une anthropologie d'ordre symbolico-fonctionnel ou structuraliste et fonctionnaliste qui tournait un peu autour du Collège de France. Et donc, le ton est monté petit à petit. Et ce livre est le résultat de différentes interventions sur différents thèmes que j'ai eu l'occasion de faire dans des colloques, des ouvrages collectifs, etc., jusqu'à ce que ça devienne... J'ai compris que ça commençait à faire un parcours qui était cohérent, enfin, qui me paraissait cohérent, et qu'il fallait, en quelque sorte, porter la critique sur la scène publique pour essayer de mettre en garde les étudiants, c'est sûr, et puis de montrer qu'on pouvait faire, comme disait Bazin, de l'anthropologie autrement. Qu'on pouvait faire d'anthropologie autrement, qu'on pouvait accéder à un autre mode de compréhension des situations sociales. Alors, justement, on a réfuté, je pourrais faire comme ça un aparté sur l'exotisme, on a rapidement réfuté, avec Bazin, vous avez l'idée que c'était une question académique, si vous voulez. Ils sont autres quand je ne comprends pas ce qu'ils font. Si je comprends pas ce qu'ils font, c'est parce que je me suis pas bien informé, et surtout, j'ai pas appris à faire comme eux, au moins dans une certaine mesure. Or, je me suis aperçu, et ça s'est accentué encore ces dernières années, que, en fait, ce qu'on appelle une culture, c'est un ensemble de codes, d'attitudes, d'habitudes, de savoir-faire, de savoir tout court, savoir qui est qui, d'où il vient, quelle est son histoire, etc. Exactement comme les savoirs qu'on a, que j'ai sur le HESS, que des gens peuvent avoir sur Montpellier, sur leur village, etc. Mais maîtriser ces savoirs locaux, je pense que l'ethnologie, ça peut déjà être l'ethnologue peut être quelqu'un qui restitue ces savoirs locaux, mais une fois qu'on les maîtrise en partie, les codes, disons, comportementaux, c'est jamais très très compliqué. Alors évidemment, ça suppose une familiarité, ça suppose de ne plus être dans la position du chercheur qui est en surplomb, ça suppose un certain abandon finalement à la situation, des moments où vous faites rien. D'ailleurs, les Kanaks l'autre jour m'ont dit, ce qui est bien, c'est quand tu fais rien, quand tu poses pas de questions, que tu es là juste avec nous et que tu fais juste le tonton, le papa, le grand-père comme on te demande de le faire. C'est finalement, petit à petit, je peux rentrer dans cette espèce d'autre univers, mais je me suis aperçu que cet univers n'était pas fondamentalement... il est différent, mais il n'est pas autre. Voilà, il est différent, mais il n'est pas... infranchissable. Alors, bien sûr, je suis pas un Kanak, je cherche pas à dire ça. Bien sûr, je le serai jamais. Si tant est que être Kanak, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Et la critique de la notion d'ethnie, etc., que Bazin et Amsel, tout ça avait mené, elle me paraissait assez juste. C'est-à-dire, on peut tout à fait, de façon circonstancielle, momentanée, etc., s'intégrer dans un groupe, dans une groupe de cérémonie, on le fait nous-mêmes ici. Si on est invité à un enterrement catholique, on se débrouille, si vous voulez. Bon, alors, si on le faisait souvent, on finirait par être un peu plus au courant. Bon, ben là, c'est un petit peu la même chose. Si vous voulez, je sais comment il faut faire dans une cérémonie Kanak, mais j'en tire pas une gloriole particulière. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès aux commentaires que les gens font. Quand vous assistez à une cérémonie, alors au début, vous croyez que c'est une espèce de synthèse de la société et que, évidemment, il y a une certaine esthétique, etc. Puis vous rentrez le soir avec vos amis, ils vous disent « Ouf, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé, heureusement que c'est fini !» Exactement comme chez nous. Enfin, voilà. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de mort, parce qu'on craint toujours des bagarres, des attaques en sorcellerie où les gens tomberaient malades d'un seul coup, etc. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de bricolage de la vie sociale qu'on pouvait apprendre. Et du coup, l'idée d'exotisme, m'est apparu comme insupportable. C'est-à-dire l'exotisme, c'est l'altérité radicale, muséographiée, embellie. Alors, soit elle est embellie, soit elle est stigmatisée. Si on peut dire, ils se comportent, vous voyez, comme des primitifs, c'est bien eux, c'est bien conforme à leur mentalité primitive, ou au contraire, c'est formidable, c'est qu'ébranlis, si vous laissez regarder, c'est mystérieux. Chez eux, par exemple, on ne dit pas qu'on est propriétaire de la terre, mais le Kanak dit « j'appartiens à la terre ». Alors je me suis aperçu que tous les... Ils disaient la même chose en Amérique du Sud, chez les, un peu partout, si vous voulez. Je me suis demandé même d'où était sortie cette phrase, qui est en fait une phrase mondialisée, quoi. C'est une sorte de garantie de l'autochtonie, si vous voulez. Alors que les Kanaks me disaient « ce terrain, il est à moi, attention, il n'est pas à l'autre », etc. Mais quand ils sont interrogés, y compris dans le film qu'on a fait, qu'on viendra peut-être vous montrer un jour, le Kanak qui était avec moi, il ne sait pas trop quoi dire, il est devant une caméra, etc. Il dit « nous, les Kanaks, on appartient à la terre ». Bon, il ressort un peu le fond de commerce de l'autochtonie, parce que... Bon. Alors, donc l'exotisme est apparu comme une sorte de supercherie, comme une fabrication d'altérité à des fins muséographiques ou à des fins éventuellement racistes, etc., pour refuser aux gens, bah, évidemment, s'ils sont primitifs, ils peuvent pas être indépendants, et à la rigueur, on peut prendre leurs objets, les mettre dans un musée, et alors là, vous avez sûrement vu, mais enfin, il y a un délire interprétatif sur ces objets, où souvent on sait pas grand chose, qui ont été collectés dans des conditions de guerre, qui sont des butins de guerre coloniales, vous les donnez au curé, parce que quand les prêtres évangélisaient, ils finissaient par briser leurs adversaires qui soit brûlaient leurs objets, soit leur donnaient. Et après, les curés, ils les gardaient dans leur caisse, et puis c'est ces objets qu'on retrouve dans les musées, mais dont on ne sait plus exactement l'usage, etc. Donc il y a toute une déperdition autour des objets, par exemple de leur usage, de leur fonction, et on les a ressuscités sous l'angle de l'art. Et le musée du Quai Branly, où il y a des choses très très belles, encore faut interroger sur le mot beau, pourquoi on trouve ça beau, parce que ça fait écho à André Breton, surréaliste, on sait que Lévi-Strauss a donné sa collection, qu'il y a des masques inuits incroyables, etc. Mais on est dans l'Occident, qui fabrique donc un monde autre, qui survalorise un petit peu tard, mais sans vouloir restituer les objets, évidemment, parce que c'est devenu des objets de valeur. Donc, critique de cette notion d'exotisme, au nom d'une réflexion, tu vas peut-être là-dessus, au nom d'une réflexion sur les acteurs. Voilà. C'est-à-dire critique de la culture, bon, je vais expliquer en gros, de cette idée d'un système clos qui ferait sens indépendamment des acteurs. Parce que c'est ça le grand truc de l'anthropologie, c'est construire du sens à partir d'informations, de données, comme ils disent, en fait, qui sont des informations produites dans l'interaction, mais on gomme toutes ces interactions, et on garde un certain nombre d'éléments qui sont autres ou qui sont différents, on les reconstruit dans un système, et après, on réfléchit sur l'inconscient des sociétés, en fait. On dit, voilà, il y a des systèmes de contraintes inconscients qui s'imposent à eux, et c'est nous qui en avons le secret, finalement, par nos analyses subtiles. Or, en fait, ce qui m'a paru important, c'est de repartir des acteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens peuvent dire ? C'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inconscient, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contraintes auxquelles les gens obéissent sans trop savoir pourquoi. Toute la vie sociale est fondée là-dessus. Mais en même temps, il y a une part de choix, il y a une part de trajectoire individuelle des personnes, surtout dans ces... Enfin, partout, si vous voulez. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on pouvait savoir si les gens avaient été catholiques, protestants, ce que faisaient leurs arrière-grands-parents, d'où ils venaient, où est-ce qu'ils ont été scolarisés, à quel parti politique ils ont adhéré, qu'est-ce qu'ils savent lire ou écrire, quel est leur rapport aux missions, etc. Donc vous avez des personnes qui ont des trajectoires. D'ailleurs, quand on fait de l'histoire, ou quand on fait de la sociologie ou des sciences politiques, on s'intéresse à ça. Mais quand c'est des Kanaks africains, etc., hop, c'était tout global. C'est l'âme Dogon, l'âme Kanak. Donc, revenir aux acteurs, essayer de comprendre quel est, comme dit Bazin, leur espace de possible, c'est-à-dire entre quoi et quoi ils avaient le choix, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire, pourquoi ils n'ont pas choisi cette voie-là plutôt que telle autre, et surtout, déjà, d'abord, leur demander leur avis, ce qui n'est pas quand même inintéressant. Alors, peut-être pour une anecdote, pour éclairer ça, et j'ai publié un article là-dessus, mais je dis pas, c'est très difficile de rompre avec l'ethnologie classique. Hein, c'est au niveau de l'écriture, c'est redoutable, hein, parce qu'on a des mécanismes de la société kanak, l'échange, le don, le système. Enfin, ça marche tellement bien, c'est tellement. Mais quand il s'agit de dire ce qu'une personne vraiment, alors prenons cet exemple. J'ai assisté à participer à un échange cérémoniel en 2001. J'ai fait un article qui est paru l'année dernière. Bon. Et bon, un échange cérémoniel comme il y en a en Mélanésie, un gros truc pour une fin de deuil. Et donc j'ai essayé. Alors j'étais impliqué dans un groupe parce que là l'insertion dans la parenté faisait que je pouvais pas aller partout. Donc je l'ai raconté comment ça s'est passé, quoi, en parlant à la première personne. Et le soir du premier, enfin ça dure 3-4 jours. Quand ça a été fini, on revient. Donc là, on était resté dans le lieu où ça avait eu lieu, puis on revient dans notre petite tribune où se trouve la famille dans laquelle je suis inséré, et on était en voiture, donc copain conduisait, et puis bon, j'étais fatigué, évidemment, c'est très fatigant les cérémonies, puis j'étais perdu dans un abîme de réflexion. Et alors, il y en a qui me disent, on sait à quoi tu penses. Alors je dis, comment ça ? Oui, tu te demandes pourquoi on fait ça ? Parce que c'est ton boulot. Alors, je dis oui. Alors, il me dit surtout, tu ne nous poses pas la question. Donc, vous voyez, c'est intéressant à mon avis. Je dis pourquoi ? Mais parce que on ne sait pas. On se dit là, vous charriez un peu, vous devez bien avoir une petite idée. On verra ça plus tard. Et puis, 2 jours plus tard, mon ami, là, que Marcel connaît, là, Jean-Marie Gorobindo, me dit on va quand même j'ai réfléchi. Donc je lui avais même pas posé la question, mais alors c'est intéressant, l'ethnologue est là et donc il suscite déjà une espèce de, dans le fond, il doit se demander pourquoi, mais pourquoi on fait ça, etc. Et il me dit, j'ai réfléchi, c'est une assurance vie. Bon, alors là évidemment j'avais jamais lu ça dans les trucs sur le don et de. Alors je dis, mais pourquoi c'est une assurance vie ? Il me dit, tu comprends, quand on va perdre quelqu'un dans notre famille, on va être obligé d'organiser des échanges avec les parents maternels du défunt. Donc là, on est allé aider un autre clan. Ce clan-là viendra nous aider. Et puis, par ces échanges, on redistribue énormément de biens, énormément de choses. Je vous passe les détails. Et comme on n'est pas quand même très, très riche, ça nous permet, ça refait circuler les choses. Ça rééquilibre un peu. Il y a des nattes qui circulent, des ignames, des tarots, des vêtements, de l'argent. Des monnaies de coquillages, etc. Et il me fait une remarque, il me dit, d'ailleurs, tu vois, quand les gens, ils deviennent, les Kanaks, ils deviennent riches, ils viennent plus dans les cérémonies. Bon. Moi, ça m'a suffi, hein, dans l'article là, que t'es donné, je trouve que déjà, on accède à une sorte de lucidité des gens sur leur propre univers, et on n'a plus besoin de se poser la question, est-ce qu'il y a une énigme du don, est-ce qu'il y a un esprit dans la chose donnée qui doit être rendue, ça c'est émos, etc. Et j'ai l'impression qu'on pouvait accéder au point de vue des acteurs. Alors je ne dis pas que le point de vue des acteurs, c'est toute la vérité de la chose, mais c'est déjà quand même un élément ethnographique intéressant, c'est-à-dire qui montre que les acteurs sont des penseurs. Parce qu'évidemment, l'anthropologue, il a toujours tendance à se trouver, à se placer au-dessus, en surplomb. Bon, alors, c'est vrai qu'il peut totaliser des savoirs que les gens ne totalisent pas parce qu'ils sont pris dans leur propre univers. C'est vrai aussi que l'anthropologue, il faut qu'il justifie auprès de ses pairs. Il y a un problème d'autorité que Clifford a bien montré. L'autorité ethnographique, c'est pas rien, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est dire, vous avez été très sympa, je vous remercie beaucoup. Et puis après, on signe le bouquin et puis on explique. Alors, il y a eu tout un tas d'anecdotes comme ça où j'ai réalisé comment les Kanaks voyaient les ethnologues et comment ils les critiquaient, et principalement les critiquent sur le fait qu'ils se substituent à leurs paroles pour dire leur essence. Et une fois, Renzo Piano, quand on faisait le centre culturel, demande à des Kanaks qui étaient là, je sais plus quoi, comme pour l'organisation de l'espace, comment vous faites, est-ce que on peut passer là devant ou derrière? Alors les Kanaks se retournent, ah, ça c'est l'ethnologue, c'est Alban, il va vous le dire. Lui, il sait parler des Kanaks en général. Voilà. Donc c'est cette idée de la montée en généralité qui est souvent un abus d'autorité. Donc se recentrer sur les acteurs, et puis bon, on peut laisser ça sur, pour la discussion, donc critique de la culture, retour aux acteurs, et bien entendu, réinsertion de tout ce que nous collectons dans la temporalité. Alors ça aussi, pour construire la culture comme un objet clos, intangible, éternel, il faut bien sûr évacuer le temps, évacuer l'histoire, évacuer l'historicité du fait social, c'est-à-dire le fait qu'un individu comme nous, quoi, on raconte un truc, hein, 10 ans après, c'est plus tout à fait la même chose, puis après, ça dépend des circonstances, ça dépend des conflits locaux. Vous imaginez, je n'ose pas imaginer quelqu'un qui voudrait aujourd'hui faire une étude sur le HESS, sur l'école des hautes études. Bon, dans une situation de crise, par exemple, qu'on traverse maintenant, vous imaginez, je ne sais pas, qui pourrait sortir, mais si vous voulez, évidemment que tout le monde va répondre en faisant très très attention, qu'est-ce qu'il va penser, il faut que je fasse gaffe, bon, et puis peut-être que dans 5 ans, ce sera autre chose, etc. Toutes les informations sont données dans des contextes historiques qu'il faut arriver à reconstituer, et d'ailleurs, les historiens nous l'avaient bien dit, les historiens, une des critiques principales que nous adressent les historiens, il faut quand même l'entendre, c'est vous ne faites pas la critique de vos sources. C'est-à-dire, avant, vous... Il y en a qui vous disent un truc, vous dites « Ah ben voilà, c'est comme ça qu'ils sont ». En fait, chaque information doit être resituée dans son contexte d'énonciation, dans son histoire. Donc cette réflexion sur la temporalité, elle avait été déjà lancée par, en 1983 par Johannes Fabian, donc dans le livre que Kanakarsis a fait traduire, qu'on a traduit sous le titre « Le temps et les autres », c'était en fait « Time and the other », mais il trouve que « Le temps et l'autre », c'est un bouquin de Lévinas, alors on ne pouvait pas avoir deux fois le même titre, on a mis « Le temps et les autres », peu importe. Et dès 83, aux États-Unis, Fabian, qui n'est pas américain, mais qui a enseigné aux États-Unis, avait mis l'accent sur ce problème. Et ce livre, depuis 83, c'est un grand classique aux États-Unis. En France, il n'a jamais été traduit, il n'y a jamais eu de compte-rendu, etc., parce que le discours français a toujours été un discours peut-être marqué par la philosophie, hein, j'en sais rien, mais globalisant, totalisant, ahistorique, et l'anthropologie s'est construite contre l'histoire, ce qui est tout à fait curieux. Si vous voulez. Donc cette réintroduction de la temporalité me paraît un des éléments clés de la critique de... Alors, de quelle anthropologie ? Voilà, donc Terret, dans un texte qui va bientôt paraître dans l'Homme, et donc proteste en disant « Mais... quand je ne savais pas comment l'appeler, cette anthropologie, j'ai mis anthropologie classique, anthropologie positiviste, anthropologie non critique. » Et j'étais un petit peu gêné dans ma rédaction de ces différents articles, parce que, évidemment, si on voulait être carré, il faudrait prendre les énoncés des ouvrages qui sont publiés par beaucoup de nos collègues aujourd'hui, que ce soit sur la vache folle, sur le rugby, sur les rapports entre nature et culture chez les Amérindiens, etc. Alors, j'ai pas osé, voilà. Alors maintenant, ils vont me forcer à citer, c'est-à-dire des phrases ou des constructions qui sont complètement décontextualisées et qui placent l'anthropologie dans une situation un peu religieuse. Alors je prends un exemple, s'arrêter là, un exemple au moment de l'affaire du Pax. Il y a 5 ans à peu près, 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça, 2001. Donc, la gauche avait dit, bon, on va faire le Pax, qui a très bien marché, hein, je vous signale, enfin, vous savez, ça, c'était un pas parmi d'autres. Et il y a un certain nombre de gens, dont Françoise Héritier, qui était contre le Pax, au nom de l'anthropologie. C'était intéressant. Et pourquoi ? Parce que les sociétés, a-t-elle dit, ont horreur de l'uniformité. Il faut toujours qu'il y ait de la différence. Donc, deux personnes d'un même sexe ne peuvent pas se marier officiellement parce que ça va brouiller on va s'y perdre, quoi. C'est la fin du monde, quoi. Et donc, alors, vous me direz, c'est un entretien dans La Croix, mais elle a aussi repris ça. Il y a eu tout un débat entre Irène Théry et Éric Fassin. Enfin, c'était très intéressant, si vous voulez, de voir combien l'anthropologie était invoquée pour établir la norme éternelle des sociétés. Ça a été un bon... Alors, vous en avez plein, des exemples comme ça, parce que ça continue à se faire, c'est-à-dire à construire des abstractions logiques qui seraient les fondements de la société. Godelier vient de publier un bouquin qui s'appelle « Au fondement des sociétés ». Je dis, bon, il ne manque pas d'air, lui, il sait... Mais on s'en fiche du fondement des sociétés, au fond. Si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est comment les sociétés travaillent, comment elles se perpétuent, elles se transforment. C'est l'histoire qui nous intéresse. Fondement des sociétés, le passage du dernier singe au premier homme, vous voyez, bon, c'est des trucs... est-ce qu'ils ont commencé par l'échange, tous ces mythes qu'on a dans Adam Smith, chez les économistes, enfin, qui, c'est normal qu'il y ait eu ces interrogations, mais si vous voulez... Bon, on a, à moins de faire des recherches très précises sur ces questions d'éthologie, etc., il y a des recherches qui sont faites, il y a des avancées, etc., mais... L'anthropologue n'a pas à énoncer comme ça des normes éternelles qui seraient des causes, des lois. Il a, à mon avis, à rendre compte de circonstances singulières et de la façon dont les gens s'en arrangent, dont les gens y travaillent, dont les gens... Et quelles sont, évidemment, Thérèse dit aussi, mais dans le fond, tu considères que tout est pareil. Non, il y a de la différence, il y a des choses que les Kanaks ne font pas, qui ne sont pas possibles pour eux, mais ça ne veut pas dire que ces différences ne sont pas compréhensibles et elles ne constituent pas des totalités. Bon. Un Kanak qui respecte son oncle maternel. Bon. Voilà. Alors, il n'y a pas de quoi en faire une montagne, si vous voulez. Bon, voilà. C'est dans le, voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurai jamais pourquoi. C'est dans l'organisation sociale. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Vraiment, pas négociable. Bon, voilà, ça c'est un... Alors on peut me dire, bon voilà, c'est un trait culturel qu'on retrouve ailleurs en Mélanésie. Je veux bien, mais ce respect des oncles maternels étant posé, ça les empêche pas de préparer l'indépendance, de devenir les premiers producteurs de nickel. Donc, c'est des règles de parenté qui ont une certaine prégnance, mais qui ne sont pas des limites. C'est des convenances, voilà, des convenances qui sont très fortes, qui sont pas les nôtres. Mais nous, on en a d'autres. On en a d'autres qu'on peut contester à certains moments, qu'on peut remettre en cause. Et il est possible que les Kanaks soient comme Françoise Héritier et disent à un moment, on respecte l'oncle maternel parce que c'est lui qui a fabriqué notre corps, parce que si on le touche, on va tomber malade, et qu'ils aient, ils essentialisent aussi leur société à un moment dans un certain discours, puis qu'à d'autres moments, ça marche plus du tout, notamment quand ils ont bu et ils donnent une grande baffe à l'oncle maternel, etc. Enfin, vous voyez, les choses sont, doivent toujours être, très précisément décrite. Alors, je m'arrêterai là. Ça a entraîné, à mon avis, ça entraîne des complications très grandes pour l'écriture de l'anthropologie, j'ai déjà dit, puisque ça nous oblige à écrire autrement, à écrire peut-être sous une forme plus de chronique, à réintroduire de la temporalité. Et donc, avec les étudiants avec qui je travaille depuis maintenant presque une dizaine d'années, là, on réfléchit régulièrement sur ce problème d'écriture pour essayer de trouver d'autres voies d'écriture, d'autres moyens de rendre compte de cette complexité plutôt que de ramener toute cette complexité à des modèles stables, à des constructions ex post, quoi, ex cathedra, plutôt que d'essayer de rendre compte des micro-variations de la vie sociale. Voilà, là, je m'arrête pour qu'on puisse discuter parce qu'après, il sera trop tard.